CFM. CFM.
17h-17h30, votre mag du Tarn-et-Garonne avec les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Pépinières Ronchini, plantez le décor en Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le mag du Tarn-et-Garonne, partenaire du festival Lettres d'automne en compagnie d'auteurs et de traductrices ce soir. Et puis alors c'est l'auteur principal qui nous fait l'honneur de venir nous voir. Presque au terme de ce marathon, même si il reste encore tout le week-end. Et puis il y a cette grande fête qui a lieu ce soir au Théâtre Lame de Gouges qui va permettre à tout le monde de feuilleter les 25 ans de Lettres d'automne. Agnès de Sarthe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Eliane Vicari, bonjour.
Bonjour.
Merci vous aussi d'être ici. On va pouvoir parler de traduction. On avait déjà un petit peu abordé ce sujet quand on s'était eu au téléphone.
Oui.
Un petit peu avant le festival. Et vous nous aviez dit, Agnès de Sarthe, que pour pouvoir traduire, il fallait connaître très très bien la langue dans laquelle, la langue de destination.
Oui. En l'occurrence, pour moi, le français.
Et voilà.
Ouais, 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 tout à fait.
Et donc, vous ne vous traduisiez pas vous-même, par exemple,
dans l'autre sens. Dans l'autre moi, sens. Je traduis depuis l'anglais, et ça me paraît essentiel. Mais pour moi, c'est parce que c'est comme ça que je le sens. Il y a certains traducteurs qui arrivent à le faire dans les deux sens. D'ailleurs, je crois que Eliane, qui est avec nous aujourd'hui, est capable de traduire de l'italien vers le français aussi bien qu'elle peut le faire du français vers l'italien. Mais c'est parce qu'elle est très très forte. La plupart des gens n'y arrivent pas. Moi, je préfère me cantonner au sens unique.
Ouais.
Oui, c'est plus sûr.
Vous, ça vous pose problème dans un sens ou dans l'autre hein?
Je n'ai jamais essayé, à vrai dire. Ouais. Enfin, j'ai essayé pour des petits textes dans ma thèse et j'ai trouvé que c'était soulageant.
Parce que... Soulageant.
Oui. Parce que pour moi, la langue, c'est vraiment le français. Donc, quand je traduis de l'italien vers le français, je n'ai pas la même approche et je ne sens pas le même poids. Ce n'est pas démontrer aux autres que le français est la plus belle langue du monde, etc. Et voilà. Donc, c'est pour ça.
Bon, comment se passe ce festival pour vous, Agnès de Sarthe?
Un délice.
Ouais.
Un délice constant. Beaucoup de rencontres, beaucoup de chaleur humaine avec à la fois toutes les personnes qui participent à l'organisation, aussi bien les permanents que les bénévoles, et puis le public, un public incroyablement fidèle, renouvelé, mais il y a aussi des gens qu'on voit tous les jours, qui viennent vous voir en vous disant « à demain », et qu'on reconnaît dans la salle, c'est très très émouvant et moi j'ai jamais connu ça ailleurs. Je le dis très franchement, je pensais pas que c'était possible. Il y a une affluence assez remarquable. Où qu'on aille, quelle que soit la manifestation, il y a du public et très attentif. Et puis je vois des choses aussi qui me plaisent beaucoup, des lectures, des spectacles auxquels j'assiste. Où là, moi, je suis tranquille. Hein, je me repose dans la salle et je profite de ce qui se passe sur scène. Et même les où il y a aussi des rencontres avec les scolaires. J'ai vu des détenus à la maison d'arrêt. Donc c'est extrêmement varié et très riche. Une expérience inoubliable, je pense.
Qu'est-ce que c'est la question qui revient le plus souvent de vos lecteurs que vous rencontrez?
C'est difficile à dire parce que les lecteurs, quand on les rencontre dans ces conditions-là, vous posent pas forcément de questions. Ils vous parlent d'eux, ce qui est très agréable parce qu'ils ont reçu et ils donnent. Donc ils posent pas de questions. Je crois qu'une des questions qui taraude les lecteurs, même s'ils la posent pas, c'est est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ça vous est arrivé? Alors parfois ils osent pas le demander. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans le livre? Parce que parfois les livres sont assez foutraques, enfin en ce qui me concerne. Et donc ils sont un peu inquiets, ils me rencontrent, ils se demandent mais oulala, qui c'est cette dame? Qu'est-ce qu'elle a vécu pour... Donc je pense que la relation entre le vécu d'un auteur et ce qu'il écrit reste une énigme pour le lecteur et qui le titille pas mal.
Un petit peu de musique, non, pas de musique, de pub, c'est ça? Un petit peu de pub, alors, pour couper notre conversation avec Agnès de Sarthe et Eliane Vicari, puis on revient dans un instant sur CFM Radio.
CFM, à Moissac, 90.7.
3 ans de prison et 9000 euros d'amende. Ça vous tente? C'est ce que vous encourez si vous conduisez sous l'emprise d'alcool et de drogue. En 2014, en Tarn-et-Garonne, 20% des accidents mortels sont liés directement à la consommation de produits stupéfiants et 37,5% liés à l'alcool. En plus des morts, il y a la souffrance des blessés et de leurs proches. Tout ça pour un délire. Et si vous étiez le prochain? En 2015, bannissez la drogue et l'alcool au volant. Parce que conduire ne peut pas rimer avec délire. Sécurité routière, tous responsables.
Les 5 et 6 décembre prochains à Bruniquel se dérouleront les 11e rencontres des métiers d'art. Dans les salles des deux châteaux, découvrez le travail de 14 artisans d'art. Potiers, couteliers, tourneurs sur bois, maroquinières, feutrières et bien d'autres. Au cœur de l'hiver, profitez d'une balade dans le beau village de Bruniquel pour faire des achats de Noël originaux à l'occasion des rencontres des métiers d'art. Les 11e rencontres des métiers d'art à Bruniquel, les 5 et 6 décembre de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite, restauration sur place. Retrouvez-nous sur la page Facebook Métiers d'art Bruniquel.
On Live, un groupe, un concert, une heure, une fois par mois.
Vous êtes à l'écoute. Oh là là, quel bruit. Vous êtes à l'écoute du groupe Yellowstone de Villefranche-de-Rouergue. Merci à tous. Gros bisous.
Diffusion du concert du Yellowstone Band vendredi 27 à 19h en CFM. Une émission parrainée par les Cuisines Schmitt.
Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
On va revenir, si vous le voulez bien, à la traduction, en lien avec justement cette rencontre que vous proposez demain à 14h à la Mémo, toutes les deux, autour justement de la traduction. Là aussi, finalement, qu'est-ce qu'il y a de temps à dire sur la traduction ? Parce que finalement, on vous imagine vous poser devant votre bureau, un peu dans l'ombre, un peu tard le soir, et puis avec une pile de dictionnaires peut-être à côté, et puis avoir comme ça un travail très solitaire.
Oui.
C'est comme ça que ça se passe.
Oui, c'est sûrement un travail très solitaire. Bah, il faut dire qu'il y a aussi après les rédacteurs qui interviennent. Aussi, il y a c'est un ménage à trois en réalité. Ça dépend des maisons d'édition, mais souvent c'est aussi un ménage à trois. Donc il y a aussi à la fin, on voit ça, on revoit ça avec un rédacteur, le rédacteur qui est un personnage assez important, du moins en Italie, dans certaines maisons d'édition. Donc et puis ce qui est important, ce qui est intéressant dans la traduction, c'est surtout le travail formel, je crois.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, bon, évidemment, quand on doit traduire un texte littéraire, un texte littéraire, c'est composé surtout d'un travail au niveau de la forme, et ce travail-là, on peut pas traduire. Enfin, il faut reconstruire un peu et recréer la forme. C'est ça qui est intéressant.
Vous avez la chance de pouvoir lire dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que vous avez déjà été déçu de la traduction d'un de vos ouvrages?
Je lis pas dans toutes les langues dans lesquelles je suis traduite, mais quand j'ai lu, le plus facile pour moi, c'est de lire les traductions en anglais. J'ai toujours été traduite par la même personne qui s'appelle Adriana Hunter et qui est une traductrice merveilleuse. Et il m'est arrivé de trouver que la version anglaise était meilleure que la version française. Oui. Alors c'était plutôt dans ce sens-là que ça a joué, mais il se trouve aussi que comme moi je suis traductrice et que l'anglais est une langue qui est toujours dans mon oreille, il m'arrive quand j'écris en français de passer par l'anglais. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a certaines phrases qui me viennent en anglais et que je traduis en français. Et après, quand je les retrouve dans les traductions anglaises, j'ai l'impression de retrouver l'original, enfin. Et alors, pour juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le dictionnaire n'est pas forcément le plus fidèle allié du traducteur. Il est là, mais c'est pas ça qu'on regarde. Il nous arrive de mettre les yeux, le nez, on dit mettre le nez, mais en fait c'est les yeux qu'on met dans le dictionnaire. Mais c'est pas vraiment, en fait, quand on bute sur quelque chose, c'est jamais vraiment sur un problème lexical ou de vocabulaire. Si tout se passe bien, en général, quand on traduit, on maîtrise suffisamment bien la langue pour ne pas s'arrêter sur les mots. Ce sur quoi on va s'arrêter, on va essayer de comprendre, parce que chaque écrivain, puisqu'il s'agit de traduction littéraire, quand il écrit, s'approprie la langue. Sa langue. Il en fait quelque chose. Moi, quand j'écris en français, je fais subir quelque chose au français. Une légère transformation qui fait que c'est pas vraiment du français, c'est du Agnès de Sartre. Donc, Eliane, quand elle me traduit, elle traduit pas seulement du français. elle traduit « du Agnès de Sarthe », c'est-à-dire qu'elle doit mesurer l'écart que je pratique quand je pratique la langue française. Et moi, quand je traduis Virginia Woolf, par exemple, qui était une moderniste et donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé la langue anglaise, qui l'a révolutionnée, je dois sans cesse prendre des mesures entre son texte à elle et le texte tel qu'il aurait été écrit dans un anglais standard, pour pouvoir recréer le même écart en français. Et puis il y a aussi toutes sortes de choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont par exemple les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est un travail de traduction.
Et il faut les transposer dans la culture de la langue traduite.
Pas seulement dans la culture,
quand
mais...
il pleut des hallebardes, ou il pleut des chiens et des chats,
voilà.
Ou il tombe des cordes.
Oui, mais pas seulement. Vous avez toutes sortes de jeux de mots qui vous vous rendez même pas compte quand vous lisez dans la langue originale. Mais par exemple, moi, je sais que j'avais un jeu de mots particulièrement tordu à traduire une fois, qui était dans un livre de Cynthia Ozick, où j'avais un personnage qui s'appelait Béatrice, ça se prononce Beatrice. Le diminutif, c'était Bee, mais Bee, ça veut dire aussi abeille en anglais. Et donc il y avait tout un jeu de mots sur bee, le nom du personnage, bee l'abeille, et, parce que ça aurait été trop simple, to be or not to be, c'est-à-dire être ou ne pas être, avec une citation de Shakespeare quand même à transformer. Et tout ça, quand vous le lisez, vous comprenez tout. Vous ne cherchez pas dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Mais comment on va faire pour fabriquer du français à partir de ça et que le lecteur français ne sente même pas il s'est passé quelque chose. Il faut juste qu'il soit charmé et qu'il ait un petit sourire parce qu'il y a eu jeu de mots.
Et comment ça se passe à ce moment-là? Là, vous pouvez buter longtemps là-dessus, vous chercher, faire comme à la télé, appeler un ami, sortir un joker.
Tu peux appeler un ami.
Oui.
Tu le fais, toi, Eliane, à appeler un ami?
Il m'arrive de poser des questions à des amis, oui, quand il y a quelque chose. Mais en général, c'est l'un des aspects les plus intéressants de la traduction, parce que c'est là que l'on devient un tant soit peu créatif aussi. Réproduire les écarts, les jeux de mots, etc., c'est ça qui est intéressant. J'ai traduit par exemple les sardinosaures, et là, c'était vraiment à partir du titre. Si on n'arrivait pas à traduire les mots, à rendre les mots, qui est un mélange de deux animaux différents, on ne pouvait pas traduire les textes. Donc,
c'est sardinosaure. Hein.
Comment faire?
Il faut avoir des grandes boîtes. Un petit peu de musique et puis on revient dans un instant en compagnie d'Eliane Vicary et d'Agnès de Sarthe. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. She's a tear in my heart. I'm on fire. She's a tear in my heart. Take me higher than I've ever been. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you how. In my car I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive, she's the tear in my heart. I'm on fire, she's the tear in my heart. Take me higher than I've ever been. My heart.
tearing my heart. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been.
Le duo américain 21 Pilots, retour en studio avec nos invités ce soir, Agnès de Sarthe et Eliane Vicari.
Je suis allé chercher pendant le disque un petit objet que j'ai posé là sur la table. Comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit objet, Agnès de Sarthe ?
Alors, j'ai cru en le voyant que c'était un agenda. Mmh. Et puis, je vous ai vu l'ouvrir et j'ai vu que c'était en fait une tablette. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense des tablettes ?
C'est un livre...
Un livre qui se lit électroniquement.
Voilà, c'est ouais. Ça.
Alors, j'en pense plusieurs choses. J'en pense que c'est bien pratique quand on fait ses valises, mais je pense que moi, je lis presque jamais dessus. Pourquoi?
Vous en avez une.
Oui, bah pour le travail, c'est quand même très utile parce que il y a certaines fonctions précieuses, comme par exemple quand je fais des traductions, ça me permet de prendre des notes, ou quand je corrige des textes, d'intégrer mon propre texte, etc. Bon, tout ce qu'on fait avec un ordinateur, hein, du copier-coller, des annotations, etc. Donc je l'utilise surtout comme instrument de travail. C'est assez précieux pour ça. Pour le travail, mais pour lire, pour ma lecture plaisir, je j'oublie toujours de recharger, et il y a plus de batterie, et il fait noir et il est pas rétro éclairé, enfin je sais pas comment ça s'appelle, et donc je me dis ça va, un livre ça tombe jamais en panne, on peut mettre du sable dedans, renverser du café dessus, dessiner, de le donner à ses enfants pour qu'ils fassent un petit dessin. Il me semble, enfin j'ai pas encore trouvé quelque chose qui soit plus polyvalent et plus douillet que le livre. Et puis aussi, le livre, on peut feuilleter. Et pour l'instant, je trouve qu'on feuillette très très mal sur les tablettes. Donc je n'en dis pas du mal parce que je m'en sers tout le temps. Elles sont très utiles, mais pour moi, ça reste un objet fonctionnel.
Alors c'est vrai, pendant que justement vous parliez, j'essayais désespérément de retrouver une des notes de parce que j'ai lu là-dessus ce cœur changeant.
Oui.
Et donc j'étais très content d'avoir utilisé pour la première fois d'ailleurs un marque-page, enfin toute une annotation. J'ai dit tiens, j'adorerais entendre Agnès de Sarthe lire ce passage. Eh bien ça ne se fera pas, figurez-vous. Ce plaisir-là, je ne l'aurai pas.
Je connais mon livre par cœur.
Les auditeurs non plus. c'est dans ce cœur changeant, le moment que j'ai trouvé très très beau. Où la compagne de Rose,
oui, Louise,
tout d'un coup se sent vieille.
Ah oui.
Et se regarde dans le miroir et est tentée de se laisser oui. aller tout ça, de se laisser aller. J'ai trouvé ça voilà très très beau.
Ah mais alors ça me touche énormément parce que le fait que un homme, car je dévoile ce fait incroyable aux auditeurs qui ne se seraient peut-être pas rendu compte, c'est un homme qui vous parle et qui soit touché par cette scène qui est pour moi de l'intimissime féminin. Le regard sur soi, un regard désabusé, pas du tout narcissique, où on se dit au point où j'en suis franchement, pourquoi pas tout lâcher, pourquoi pas se gaver de gâteaux, de bonbons, fumer 140 cigarettes par jour et laisser tout se disloquer. En plus, la compagne en question, cette Louise, c'est une danseuse qui a toujours été impeccable, qui a un corps magnifique et qui se dit qu'elle est tentée par la décadence parce que de toute façon, il n'y aura pas d'amélioration. Mais elle renonce pas au changement. Elle se dit le changement quand même, c'est toujours une joie, une source de joie. Alors, pourquoi pas aller vers le pire puisqu'il faut bien évoluer et accepter le pire et en faire une espèce de flamboiement, de panache. Donc elle est traversée par cette pensée négative et je suis très heureuse que ça vous ait touché.
Oui, ça m'a beaucoup touché et justement on peut même presque en revenir à ce fameux questionnement que tout le monde se pose, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est de quel est le rapport justement à l'autobiographie dans tout ça, à vos propres pensées personnelles, à vos propres angoisses du temps qui passe.
J'ai jamais été tellement angoissée par le temps qui passait. Et une grande partie de ce livre est constituée sur la thématique du cercle. Il y a beaucoup de circularité. Et une des choses qui m'est apparue en écrivant, c'est que j'avais une conception des âges qui n'était pas du tout linéaire. C'est-à-dire que pour moi, je me rends de plus en plus compte, je n'ai pas eu 1 an, puis 10 ans, puis etc. En laissant tout ça derrière moi, c'est comme un escargot. Au centre, il y a moi bébé, et autour s'enveloppent différentes petites filles, jeunes filles, femmes, que j'ai été, mais je suis, pendant que je vous parle, je suis encore la petite fille et je suis encore le bébé. mais ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur. Mais moi, j'ai un accès très rapide à ça. Et je m'en suis rendu compte en parlant. La première fois que je m'en suis rendu compte de ça, c'était en parlant avec des personnes très âgées, dont on ne soupçonne pas que l'enfant et parfois même le bébé est encore présent en eux. On les relègue, si vous voulez. Ah, ben, c'est les vieux, ils savent plus, je sais pas quoi. Et en fait, très souvent, on se rend compte qu'ils sont complètement connectés à ces sensations d'enfance, d'adolescence, etc. Ça m'a frappée et ça m'a beaucoup émue. Et je me suis dit, tiens, c'est une conception du temps qui me convient et qui est beaucoup plus rêveuse et beaucoup moins brutale que cette idée qu'on laisse derrière soi et puis que c'est plus jamais. Non, c'est pour toujours.
Alors, dans ce cœur changeant, il y a cette idée, hein, un peu même perpétuel. Vous jouez énormément avec le temps, hein, puisque ça se passe justement sur de nombreuses années. Mais il y a cette fuite en avant justement de Louise, de toute cette population qui séjourne dans son jardin, j'allais dire,
dans son appartement.
Ouais, dans son appartement, dans son jardin intime quelque part, où tout le monde brûle la ville à parler debout, vite.
C'est aussi une époque particulière. C'est le roman. Il se situe entre les années 1880 et 1930. Et les passages auxquels vous faites allusion, quand on est dans l'appartement que partagent Rose et Louise, c'est les années 10, hein, les années, et ce sont des années extrêmement fortes. Très moderne, ou beaucoup plus moderne que ce qu'on vit en ce moment, avec de l'innovation, de la prise de risque, beaucoup d'audace et l'impression que tout est possible. C'est aussi l'irruption pour la première fois de la vitesse avec l'automobile, avec l'image mouvante. Et il y a une excitation réelle, hein. Moi, c'est des choses que j'ai trouvées dans mes lectures, dans mes documentations, etc., où il y avait un rapport à la vitesse complètement neuf, complètement innocent et pas encore subi. Nous, on est à l'époque où on subit la vitesse. Mais alors que là, ils sont dans le moment de l'accélération. Et ils sont pris par le vertige de cette accélération. Et c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en lumière, ces années-là où l'accélération était encore bonne et porteuse, et voilà.
Et puis il y a Rose donc qui traverse tout ça avec elle fait le yo-yo, hein.
Oui.
Elle va du caniveau.
Splendeur et misère.
Ouais, c'est... Ouais. Et justement là il y a aussi toujours le temps, c'est-à-dire on a de la peine pour elle parce que elle passe finalement presque autant de temps à avoir du bonheur.
Oui.
Qu'elle n'arrive peut-être même pas à mesurer, que à vivre dans la misère la plus absolue et la déchéance la plus totale, quoi.
Oui, et elle va de l'un à l'autre avec le même courage et la même curiosité. Ce qui caractérise ce personnage, c'est sa curiosité, c'est ça qui la sauve, parce que plusieurs fois au fil des pages, elle est dans des situations tellement précaires, tellement compliquées, qu'elle se dit bon bah là je vais mourir, parce qu'elle a lu, la seule chose qu'elle sait sur la vie quand elle débarque à Paris à 20 ans, c'est ce qu'elle a lu dans les livres. Et dans les livres, et moi je le sais parce qu'on est très tenté en tant qu'écrivain de faire ça, quand votre personnage s'en sort pas, eh ben on le tue, il meurt. Oh, c'est terrible, ah ben voilà, elle ne pouvait plus, eh ben, elle est morte. Bon, et ben donc elle, comme elle est un personnage, mais elle est une personne aussi dans le roman, elle se dit de temps en temps, oh ben là je crois que je vais mourir, et elle attend, elle meurt pas. Et elle a cette curiosité de dire, mais comment c'est possible?
Elle a aussi beaucoup de chance, finalement.
Oui,
parce
mais
que...
cette chance, elle est peut-être liée aussi à cette résistance qu'elle a, qui est une santé fondamentale.
Et puis une naïveté.
Et une candeur, ouais, oui.
Son arrivée à Paris, elle est extraordinaire, parce qu'elle arrive à Paris, ça va être la fête, ça va... Et puis,
bah non,
ça dure vraiment pas longtemps, quand même.
C'est le contraire de Rastignac. Rastignac, ce qu'il sauve, lui, c'est qu'il a un projet. Il arrive avec une ambition. Rose, elle n'est pas ambitieuse. Elle sait rien. Elle arrive et il va lui arriver ce qui lui arrivera. Elle a cette curiosité de savoir, de laisser la vie venir à elle sous toutes ses formes, les plus âpres comme les plus belles.
Et bon, les relations humaines, les relations familiales, les relations femmes-filles sont terribles.
Oui.
Terribles. J'espère pour vous que c'est pas du tout autobiographique, là.
Non, pas du tout, rassurez-vous. Non, c'est vrai qu'il y a un personnage de mère, la mère de Rose, c'est un sacré morceau. Christina, une femme d'une beauté stupéfiante et d'une froideur tout aussi stupéfiante. Et il y a en particulier une lettre qu'elle écrit à sa fille à un moment que beaucoup de gens n'ont pas supporté, qui est une des lettres les plus méchantes de l'histoire de la littérature, je pense. Mais moi, cette lettre, je l'aime beaucoup parce que c'est une belle lettre, bien écrite. Alors moi, quelqu'un qui écrit bien, forcément, ça me touche. Et elle apprend quelque chose à sa fille, mine de rien, dans dans cette lettre. C'est-à-dire que c'est une lettre qui est très rejetante, mais elle dit à sa fille, qui lui a écrit une longue lettre elle-même, arrête de faire de Paris un chromo, arrête d'être au ras des pâquerettes, en gros, essaye de voir un peu plus haut, et puis elle l'enjoint à être plus exigeante, à être... Alors c'est très dur, mais... Je crois que le parcours de Rose n'est pas sans lien avec cette lettre qui marque une rupture dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au départ, est très naïf et qui va progresser dans l'appropriation du langage dans un premier temps et qui va même aller jusqu'à l'écriture. Et c'est une sorte de leçon. C'est à partir de cette leçon esthétique que lui donne sa mère que quelque chose se met en route. Alors, c'est violent, mais c'est créatif.
Oui. Bon, les hommes, ils ont pas non plus la part super belle, hein, dans ce cœur changeant, hein.
Que ce soit
le père qui sait jamais ce qu'il veut, hein, qui veut dire une chose et puis qui finalement dit son contraire, parce qu'on sait jamais s'il avait dit la bonne chose, il se serait peut-être trompé. Hein.
Ouais, c'est un indécis génial. Ouais. Ouais.
Le pauvre son amant, je sais plus comment il s'appelle, qui meurt.
Oui, Émile.
Bon, alors le pauvre.
Bah oui.
Ah lui, vous.
Bah oui, mais Émile il meurt, mais il est pas. C'est pas un mauvais bout,
ah
c'est quand même un poète
qui
parle en latin, en grec, qui l'initie à la poésie ancienne. C'est pas franchement un naze, je trouve. C'est un beau personnage, il se trouve qu'il meurt. Et puis après, il y a Artem, qui est un très joli personnage de jeune homme, qui arrive dans sa vie, dans la vie de Rose, de façon comme ça, presque comme une écharde, à peine rien, un brin d'herbe, et qui en fait va prendre une place immense et va la sauver d'une certaine manière. Donc, disons que les hommes n'occupent pas peut-être l'avant-scène. Ils sont plutôt des personnages de second plan, mais ils sont pas pour cela délaissés. Moi, parmi mes personnages préférés, il y avait ces hommes-là. J'ai adoré travailler avec eux. Donc, si vous voulez, ce qui fait dans la vie, on va juger les personnes selon leurs qualités. Mais dans un roman, le personnage, on le juge pas selon ses qualités, on le juge selon sa richesse. Et par exemple, le père de Rose, c'est un abruti, un salopard, tout ce que vous voulez, mais quel personnage! Moi, j'ai adoré le travailler. Donc, bon ou pas, si vous voulez, dans la vie, c'est pas mon jugement. Moi, je le juge en tant que personnage.
Il faut lire Ce cœur changeant, et puis il faut aller rencontrer Agnès de Sarthe et pourquoi pas aussi Eliane Vicari, puisqu'elles seront toutes les deux à la mémo demain à 14h pour faire une rencontre autour de la traduction. Et évidemment, la grand-messe ce soir, l'anniversaire, ou même on soufflera les bougies à l'entracte, oui, c'est au Théâtre Lame de Gouges à partir de 21h. Merci Agnès de Sarthe,
merci
Eliane Vicari.
CFM. CFM.
CFM, les infos.